persuader cette comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien.
Objection Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent avec Tania Rachaud. Dans ce podcast, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Cette émission est réalisée par Léo Bardot à Rome.
L'Europe, l'Europe, l'Europe.
Objection Votre Europe revient avec une série spéciale Green Deal, présentée par les étudiantes et les étudiants de l'université Paris-Saclay. Le pacte vert européen, discuté au sein de l'Union européenne depuis 2019, explore de nombreux sujets liés à l'environnement, et donc on a pensé qu'il serait intéressant de décrypter ces enjeux et les objectifs du Green Deal. Dans cet épisode, les étudiantes Lila Assas, Louise-Élive Guittet, Carmen Le Canu et Amy Raymond vont vous présenter le sujet inégalités sociales et Green Deal.
Our scientists are developing the technologies of the future. Our families are renouncing plastic and choosing local food. Our European Green Deal is for them. It is ambitious. It is designed to be just. It is made in Europe, for Europe, to lead the way to climate neutrality in 2050.
Vous venez d'entendre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission de l'Union européenne, lors de sa prise de parole lors du débat sur le Green Deal européen en 2019. Elle y présente les enjeux et objectifs du Pacte vert, un programme qui se veut juste, créé en Europe, pour l'Europe. Le Green Deal, ou Pacte vert pour l'Europe, c'est la feuille de route de l'Union européenne pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Inspiré par les accords de Paris de 2015, cet ambitieux programme vise à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Mais derrière cette ambitieuse transition écologique se cachent aussi des défis de taille. Car au-delà des objectifs environnementaux, cette transition va profondément transformer nos sociétés avec des répercussions majeures sur les inégalités sociales, l'emploi et l'économie. Derrière cette transition écologique nécessaire, une question se pose. Quel impact sur la justice sociale ? Parce que changer de modèle économique, c'est aussi transformer des secteurs entiers, avec des conséquences bien réelles pour les travailleurs et les entreprises.
La transition vers le zéro carbone, ça implique des transformations profondes dans des secteurs clés de l'économie européenne. Parmi eux, on retrouve les énergies fossiles, l'industrie automobile, l'industrie lourde, ainsi que l'agriculture intensive. Ces secteurs, qui représentent une part non négligeable des emplois actuels dans l'Union européenne, se trouvent sacrifiés sous l'autel du climat. On estime que 23% de la population européenne est susceptible d'être impactée par la mise en œuvre du Green Deal. La perte d'emploi de certains travailleurs va avoir des conséquences d'autant plus lourdes que ces secteurs sont majoritairement composés d'emplois ne nécessitant pas de qualification ou de spécialisation très technique. Cela va favoriser le maintien au chômage des travailleurs de ces secteurs qui auront du mal à retrouver des emplois équivalents dans d'autres secteurs. Trouver un nouvel emploi, se former à un autre métier, etc., ce n'est pas toujours évident, surtout quand le marché du travail évolue plus vite que les formations disponibles.
Alors, comment éviter une fracture sociale ? Comment accompagner ceux qui risquent de se retrouver en difficulté ? C'est tout l'enjeu des politiques de transition juste.
Le Green Deal accentue aussi les inégalités géographiques. Certains secteurs menacés par la transition écologique sont fortement concentrés dans des régions spécifiques, ce qui signifie que certaines zones seront bien plus touchées que d'autres. Prenons l'exemple du charbon. Son extraction est principalement localisée en Europe de l'Est, notamment en Pologne. Les pays les moins développés, qui s'appuient encore sur des modèles énergétiques traditionnels, parfois basés sur des énergies fossiles, ont plus de difficultés à s'adapter aux nouvelles exigences environnementales. Résultat, la fermeture de ces secteurs va entraîner une baisse significative de l'emploi dans ces pays, avec des perspectives de reconversion limitées en raison du manque de qualification de ces travailleurs pour exploiter les nouvelles technologies ou intégrer les nouveaux emplois divers. Prenons un exemple concret, le passage des voitures thermiques aux voitures électriques. Cette transition implique des compétences différentes. Les voitures thermiques étant plus complexes à produire et demandant plus de main-d'œuvre que les voitures électriques, ce qui complique la reconversion des ouvriers du secteur automobile.
Mais l'impact ne s'arrête pas là. Décarboniser l'Union européenne signifie que les entreprises vont devoir absorber des coûts d'adaptation élevés, ce qui risque de se traduire par une baisse des salaires et une augmentation des licenciements. Et pour les particuliers, leurs habitudes personnelles vont être chamboulées avec une transition écologique vers les voitures électriques ou avec des projets de rénovation, les habitations devant répondre à une efficacité énergétique avec par exemple la mise en place de panneaux solaires ou une meilleure isolation. Et c'est là qu'apparaît un phénomène préoccupant, la gentrification verte. La transformation écologique de certains quartiers en zones plus durables les rendra plus attractifs et donc plus chers. On risque alors d'observer une hausse des prix de l'immobilier et de l'énergie, rendant l'accès au logement encore plus difficile pour les ménages les plus précaires. C'est ce qu'on appelle la précarité énergétique. C'est l'incapacité de certains foyers à subvenir à leurs besoins élémentaires en énergie à un coût raisonnable.
Cette question des inégalités ne s'arrête pas aux villes, car le Green Deal touche aussi un secteur essentiel, l'agriculture. Avec la stratégie Farm to Fork, l'Union européenne veut rendre notre alimentation plus durable et équitable. Mais pour les agriculteurs, cela signifie des investissements coûteux pour réduire leur empreinte carbone, tout en restant compétitifs face aux importations, souvent moins chères et soumises à des normes environnementales moins strictes. Et pourtant, la situation est déjà difficile. En France, un agriculteur sur cinq vit sous le seuil de pauvreté, selon l'étude de l'INSEE publiée en 2021. Alors si rien n'est fait pour les accompagner, le Green Deal pourrait aggraver encore davantage les inégalités sociales et fragiliser un secteur déjà en crise. Alors comment faire en sorte que la transition écologique ne laisse personne de côté ? Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's there? Vous venez d'écouter « Talking about a revolution » de Tracy Chapman.
Face aux défis sociaux et économiques du Green Deal, l'Union européenne a prévu des mécanismes d'accompagnement pour limiter les inégalités. Parmi eux, le mécanisme de transition juste vise à soutenir financièrement les régions et les travailleurs les plus touchés par la transition écologique. Concrètement, cela passe par trois piliers de financement, dont le Fonds pour une transition juste, qui accorde des subventions directes pour aider les territoires à diversifier et moderniser leur économie. L'objectif est clair. Atténuer les pertes d'emplois en investissant dans l'innovation, les petites entreprises, la gestion des déchets ou encore la formation professionnelle. Les projets financés par ce mécanisme ont pour objectif de soulager les régions les plus touchées à l'intérieur des États membres. Cependant, l'éligibilité des territoires à cette aide est subordonnée à la mise en œuvre de politiques concrètes visant à atteindre l'objectif zéro carbone. C'est par exemple le cas de la Pologne, premier pays censé bénéficier du dispositif. Pour accéder au financement, elle devra accélérer sa transition énergétique et revoir ses ambitions climatiques, ce qui implique une remise en question profonde de son modèle économique encore très dépendant du charbon.
Mais au-delà des aides financières, une transition juste implique aussi une véritable justice climatique. Cela passe par une participation citoyenne renforcée. Pourquoi ? Car les citoyens européens sont des acteurs clés de l'acceptation, mais aussi de la mise en œuvre du pacte vert, et parce que les habitants et travailleurs des régions les plus impactées doivent être intégrés aux prises de décision. Il est essentiel que ces choix ne bénéficient pas uniquement aux favorisés, mais qu'ils tiennent compte des réalités locales et régionales. Une meilleure consultation et une représentativité des citoyens permettraient non seulement d'assurer une transition plus équitable, mais aussi d'augmenter l'adhésion aux politiques environnementales.
La transition écologique va aussi transformer en profondeur le marché du travail. La disparition de certains emplois et leur transformation en emplois verts requièrent une évolution des compétences et le développement de nouvelles formations professionnelles. Ainsi, pour accompagner ces mutations, l'Union européenne a mis en place un outil clé. Le Fonds social européen plus, doté d'un budget de 88 milliards d'euros pour la période 2021 à 2027. Ce fonds finance des projets d'emploi, d'éducation et de formation avec un objectif clair. Anticiper les nouvelles compétences nécessaires à la transition écologique liée à l'émergence de nouveaux métiers et à la reconversion des travailleurs. La Commission européenne vise ainsi à ce que 60% des travailleurs participent à des actions de formation chaque année d'ici 2030. Ces formations poursuivent une logique de reconversion visant à orienter ceux travaillant dans des domaines qui deviennent obsolètes vers des compétences liées à la transition écologique. Ces formations peuvent également être articulées autour de l'émergence de métiers verts et de nouveaux emplois dans des domaines encore expérimentaux, comme l'ingénierie de l'hydrogène ou l'analyse des émissions carbone.
Et pour l'agriculture ? Là aussi, des réformes sont en cours. La politique agricole commune a été ajustée pour soutenir des pratiques plus durables. Mais de nombreux agriculteurs estiment que les aides sont insuffisantes ou trop complexes à obtenir. Or, rappelons que la PAC, c'est 80% du budget de l'UE. Il est versé à 20% des agriculteurs de l'Union européenne. De fait, les subventions sont réparties selon la superficie des exploitations agricoles plutôt que sur des critères sociaux ou environnementaux, favorisant ainsi les grandes exploitations au détriment des petites structures respectueuses de l'environnement.
Alors comment s'assurer que personne ne soit laissé de côté dans cette transformation écologique essentielle ? C'est tout l'enjeu des politiques d'accompagnement qui vont se jouer dans les prochaines années.
Merci de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe spéciale Green Deal par les étudiantes Lila Assas, Louise-Élive Guittet, Carmen Le Canu et Amy Raymond du Master Droit Européen de Paris-Saclay. C'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur le site d'Amicus Radio, celui des Sciences Lumière et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de nos actualités.